Bonjour à toi, enfant du futur immédiat, toi qui es une vraie graine de casseur. Il fut une époque où il existait des commerces dont la surface était exclusivement dédiée aux jeux. On pouvait jouer au baby-foot, au flipper et surtout à une multitude de jeux vidéo montés dans des boîtiers spécialisés appelés bornes d'arcade. On disait que dans ces lieux de débauche, tu ne rentrais qu'avec une batte ou une hache, mais à mon avis, ils confondaient avec une partie de Castlevania ou bien une chanson d'IAM. Tu mettais une pièce dans la fente et la partie durait entre une minute et une heure en fonction de ton talent. En général, le gestionnaire de la salle d'arcade avait intérêt à ce que tu perdes assez vite, mais pas trop, d'où l'habitude à une difficulté impressionnante sur ces jeux. Bon, des fois, le gérant en rajoutait un peu, des taquets en bois sous les pieds arrière des flippers, la surface des baby-foot ça va m'en raboter, et les switches paramétrant la difficulté des jeux vidéo étaient soigneusement calés avec des allumettes au cas où l'interrupteur glisse ou la violence est partie. Aujourd'hui, je vais te parler d'un des genres de l'arcade action qui furent immensément populaires, aussi bien en borne d'arcade que sur un ordinateur familial, mais qui de nos jours a quasiment perdu toute notoriété. Et en même temps, un type de jeu dont les périphériques d'entrée ont énormément conditionné la jouabilité du genre. Car son tout premier périphérique de contrôle fut le paddle, ce bon vieux bouton rotatif qui donnait à la fois une précision dans le placement et les limites sur la vivacité. Puis vinrent le joystick ou le clavier au déplacement binaire, sec et parfois trop lent. Et on le verra sur une évolution, un usage assez étonnant de la souris. Avec les mêmes règles de base, tu peux déjà explorer très différemment ce classique en fonction de son périphérique d'entrée. Enfant du futur immédiat, tu dois en avoir marre de m'entendre tourner autour du pot. Et oui, je ne t'ai toujours pas dit de quel jeu je vais te causer. Le casse-briques. Ce jeu qui consiste à détruire des murs de briques avec une balle en n'ayant le contrôle que sur donc la batte ou la raquette. Et évidemment, la difficulté croît avec l'avancement de ton œuvre, car il devient alors statistiquement moins évident d'arriver à toucher alors qu'il ne reste que cette ultime brique, celle qui est nichée là-bas tout au fond, pas loin du coin. Et rien n'est plus tripant que l'instant multiballe.
Ce bonus où la balle se dédouble encore, promettant un carnage démultiplié sur les briques, mais en même temps deux fois plus d'attention et de nervosité pour faire rebondir avec ta batte.
Et à force de tenter de suivre toutes ces balles, tu pourrais bien perdre la boule et n'en garder aucune. Et une vie de perdue. Et si d'aventure tu finis de vider une pièce de brique que tu pouvais casser, le jeu t'envoyait alors dans une autre pièce, un nouveau défi, avec des briques aux propriétés plus compliquées et accessibles qu'aux trajectoires les plus retorses. De quoi te faire péter un plomb. Il se trouve qu'en 2019, j'avais écrit une suite de textes sur les casse-briques, où notamment je me suis posé la question « Pourquoi le casse-briques fut-il immensément populaire, puis est tombé en désuétude après 1989 ?» Est-ce à cause de la chute du mur de Berlin ? Je ne crois pas aux coïncidences. Mais de nos jours, le chef de l'État la plus importante puissance militaire parle de faire construire un mur le long de ses frontières sud. C'est marrant, mais je sens que les casse-briques vont revenir à la mode avec une bande-son de hip-hop mexicain. Enfant du futur immédiat, il est temps de reprendre en radio ce dossier parce que, tel que je te connais, comme tu n'es pas du genre à cliquer sur les liens qu'on te met sur le site cpu.pm, j'ai l'impression que le son est le seul moyen de t'intéresser à quelque chose. Et pourtant, notre programme, ben, il casse pas vraiment des briques.